Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université et de ses partenaires. En 2014, suite à la promulgation de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, la métropole de Montpellier était la première en France à lancer sa propre politique agroécologique et alimentaire, la P2A. Son objectif ? Offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre, soutenir l'économie locale, l'emploi agricole et agroalimentaire. En 10 ans, pour exemple, le nombre d'exploitations viticoles sur la métropole est passé de 703 à 299 et plus de 84% des exploitations présentes sur le territoire sont actuellement sans successeur. La P2A, c'est aussi préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles, s'adapter au changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre et enfin favoriser la cohésion sociale et notamment les liens entre la ville et la campagne. Depuis, l'idée a fait son chemin sur l'ensemble du territoire et se décline un peu partout en pattes des projets alimentaires territoriaux. En 2015, déjà, la métropole signait à Milan le pacte des politiques alimentaires urbaines aux côtés d'une centaine de villes du monde. En 2019, elle accueillait le 5e sommet de ce pacte, réunissant alors plus de 200 villes. Mais ces multitudes de projets locaux peuvent-ils modifier réellement le rapport entre la ville et la campagne? C'est la question que nous posons aujourd'hui à notre invitée. Elle est chercheuse à l'INRAE dans le labo Innovation. Elle s'est penchée sur ces démarches de relocalisation ou de reterritorialisation des politiques alimentaires en se concentrant sur le PAT Mar Imunt du territoire Pays Pyrénées-Méditerranée. Colline Perrin, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Je vous vois froncer les sourcils. Dites-moi ce qui ne va pas dans l'introduction, ce sera fait.
Donc, en fait, on a coordonné un dossier spécial pour la revue Annales de géographie avec mon collègue Guillaume Lacman de l'Université de Perpignan, qui s'est, lui, concentré sur ce projet dans les Pyrénées que vous citiez, Mar Imunt. Et du coup, moi, je serais plus à même de vous parler d'exemples dans l'Hérault.
Merci beaucoup. Donc avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En deuxième partie d'émission, nous partons à Sète, où le CELIMER, le centre de recherche sur le littoral et la mer, vient d'ouvrir ses portes juste à côté des locaux de l'IFREMER. Laurent Dagorne nous y fera découvrir la plateforme de biologging. Enfin, l'invitée des trois dernières minutes sera Agnès Lèbre, astronome et directrice adjointe de l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement, l'OREM. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, dans l'introduction, on a parlé un peu des relations ville-campagne, de comment elles pouvaient être transformées par les mouvements de relocalisation de l'alimentation dont on va parler. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut les décrire un petit peu, ces relations ville-campagne? Par quoi elles ont été marquées?
Alors, on pense souvent que les villes s'approvisionnaient jusqu'au 19e, début du 20e siècle, dans les campagnes alentours. C'est vrai. Il y avait des liens forts entre les villes et les campagnes. Les citadins, par exemple, de Montpellier, de Béziers, étaient propriétaires d'une partie des campagnes autour. Et une partie de l'alimentation venait de ce qui était produit autour. Malgré tout, les villes, elles ont toujours aussi eu des approvisionnements à distance. Si on pense à Paris ou à Londres ou même à Rome dans l'Antiquité, elles faisaient aussi venir du blé ou des produits d'ailleurs. Donc ça ne se faisait pas toujours en local. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu vraiment un processus de déconnexion entre les lieux de production et les lieux de consommation. Et aujourd'hui, les villes s'approvisionnent essentiellement sur des marchés internationaux, sans qu'on sache vraiment exactement d'où viennent les produits. En tout cas, les produits ont fait souvent un long chemin. Parfois même, un melon va être produit à côté de Montpellier, il va monter à Rungis avant de redescendre dans votre supermarché à côté de Montpellier et être vendu comme un produit français sans qu'on sache plus qu'il a été produit en fait aux portes de la ville.
Vous utilisez deux termes différents, relocalisation, reterritorialisation dans la publication. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Alors, donc moi, je suis géographe. Et le terme de territoire, c'est un terme important pour moi en géographie sociale. Ce que j'appelle un territoire, c'est un espace approprié par une société, par un groupe de personnes. Et donc, c'est cette relation d'une société à un espace qui va faire qu'on va parler de territoire. Et du coup, pour moi, la relocalisation, on va dire, c'est le rapprochement, la réduction de la distance entre le lieu de production et de consommation, tandis que la reterritorialisation, on va regarder aussi les connexions entre les personnes.
Alors justement, les approvisionnements alimentaires dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu des modifications, notamment au cours de la période industrielle. Comment est-ce que ça s'est modifié? Vous parliez du melon. Pourquoi il y a eu ce changement à cette période-là, justement?
Pourquoi il y a eu la déconnexion?
Oui.
Je pense que c'est lié à la phase de modernisation de l'agriculture, avoir des rendements plus importants liés à des économies d'échelle et du coup engendrant une séparation des différentes phases de la chaîne alimentaire, avec des acteurs qui se sont concentrés sur la production, sur la transformation, sur la commercialisation. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on parle de reterritorialisation des systèmes alimentaires, quand on parle de système alimentaire, c'est bien l'ensemble de la chaîne dont on veut parler. Et donc, c'est non seulement les rapprocher du territoire où il y a les consommateurs, mais c'est aussi reconnecter les différentes étapes, voire remettre entre les mêmes mains ces différentes étapes. Quand, par exemple, un agriculteur va aussi transformer ses produits et les vendre sur son exploitation. Donc là, il assure toute la chaîne.
Alors, la déconnexion dont vous parlez, elle dure jusque dans les années 2000, où finalement, donc je reprends toujours votre article, ce sont les citoyens, et en l'occurrence plutôt des citadins, qui vont reposer la question donc de l'approvisionnement alimentaire en réclamant plus de local. Est-ce qu'on sait de quoi ça naît, en fait, cette envie? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une prise de conscience? Ça vient d'où?
Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs prises de conscience liées à l'alimentation. D'abord, dans les années 90, il y a eu des crises sanitaires importantes, notamment la vache folle. Et ensuite, dans les années 2000, il y a eu une flambée des prix, notamment des céréales, vers 2008 à peu près. Et enfin, il y a une montée en puissance des enjeux environnementaux liés au changement climatique, à la nécessité de préserver la planète, de faire des économies d'énergie, etc. Et du coup, je pense que c'est l'ensemble de ces trois crises sanitaires, économiques et environnementales qui va conduire à ce que des citoyens s'engagent dès le début des années 2000 en France pour ce qui était appelé à l'époque principalement des circuits courts.
Alors, dans cet article, on a pu lire, nous, des informations sur un programme qui s'appelle le programme Sherpa, donc pour Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors, si je ne me trompe pas, donc qui associe politique, société civile et scientifique. Donc, ce programme, c'est ce qu'on appelle une démarche en bottom-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce type de démarche?
Alors, bottom-up, en anglais, ça veut dire du bas vers le haut. Et donc, c'est l'idée qu'on va travailler, enfin, qu'on laisse... On part des initiatives citoyennes portées par des habitants, par des petits collectifs d'agriculteurs, de commerçants, etc. Et qu'on va essayer de faire émerger de ces initiatives locales, de les mettre en réseau pour faire émerger une politique plus structurante. Et donc, c'est à l'inverse d'une politique qu'on pourrait appeler top-down, qui va partir du haut avec des directives qui vont devoir être appliquées partout dans les territoires.
Alors, donc, le projet de plan alimentaire territorial, donc le PAT dont on a parlé dans l'introduction, et en particulier celui des Pyrénées-Méditerranée qui est cité donc, dans l'ouvrage en question, il concentre a priori, dites-vous, la plupart des enjeux que sous-tendent les projets de système alimentaire territorialisé, alors en partant donc du pays Pyrénées-Méditerranée. Est-ce qu'on peut dire quels sont ces enjeux?
Alors, ce qu'on constate, c'est donc en France aujourd'hui, il y a, je ne sais plus exactement le nombre, mais je dirais plus de 380 PAT, projets alimentaires territoriaux, partout en France, à différentes échelles, que ça soit parfois une commune, une intercommunalité, un département, parfois ce sont des pays ruraux qui s'en emparent. Et pourquoi les territoires s'engagent dans de telles démarches? C'est pour agir sur différents leviers pour la reterritorialisation du système alimentaire. Et ce que moi, j'observe dans les projets que je suis, c'est souvent qu'il y a d'abord donc un volet de ces projets qui portent sur les circuits courts. Donc comment on va favoriser des magasins de vente directe, des lieux mutualisés où différents producteurs pourraient vendre leurs produits, la structuration des marchés, etc. Donc une réduction de la distance, non seulement physique, géographique, mais aussi relationnelle avec les consommateurs. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, souvent, on a un axe sur l'accès à l'alimentation pour les plus défavorisés. Suite au Covid, notamment, il y a vraiment cette prise de conscience de la précarité alimentaire d'une forte part de la population et qui donc, il faut vraiment des actions dédiées pour faciliter l'accès de tous à l'alimentation. Donc ça va être un travail avec les épiceries solidaires, des choses comme ça. Ensuite, souvent, il y a un axe sur les pratiques agricoles pour diminuer la consommation de pesticides et d'engrais et aller plus vers des pratiques agroécologiques. Donc ça, à travailler avec les agriculteurs pour cela. Et souvent, il y a un dernier axe sur la question des terres agricoles et du foncier. Et moi, c'est l'axe sur lequel moi, je suis spécialisée. Donc c'est la question de l'accès à la terre pour une diversité d'agriculteurs. Et c'est aussi comment remobiliser des terres en friche, comment faciliter la transmission des exploitations et l'installation. Voilà, quand on sait qu'il y a la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite dans les 10 ans et que cette question du renouvellement des générations agricoles est particulièrement importante. Et moi, je trouve que c'est une fenêtre d'opportunité pour faire cette reterritorialisation, justement. Mais pour ça, il y a besoin d'un accompagnement et je pense que ces projets alimentaires territoriaux peuvent être un tel support.
Alors, ces enjeux qui sont locaux, on ne peut pas les envisager en dehors du contexte global de crise climatique, crise agroécologique, crise énergétique. Est-ce que, justement, ce genre de projet alimentaire territorial, ça peut être un élément de réponse aux différentes facettes de cette crise ?
Alors, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une réponse locale à des problèmes globaux, comme vous le dites. C'est-à-dire que ces problèmes globaux, on les ressent aujourd'hui dans tous les territoires. Là, j'étais ce matin en visioconférence avec des gens partout en Europe et ils disaient tous qu'ils n'avaient pas eu de pluie depuis 3 semaines ou quelque chose comme ça et qu'ils sentaient le changement climatique au quotidien. Et je trouve que, en fait, ces changements globaux, on va les ressentir sur nos territoires de manière différente. Nous, ici, en ce moment, on a de la pluie, mais c'est plutôt l'intensité de la pluie sur des courtes périodes qui va nous dire « Ah bah oui, bah là, c'est quand même particulier en ce moment. » Du coup, la manière de répondre à ces changements globaux, elle va forcément devoir être adaptée aux enjeux locaux. Donc, par exemple, sur la question de la gestion de l'eau, on en entend beaucoup parler en France depuis 3 semaines, 1 mois. Manque d'eau, mais autour de Montpellier, c'est aussi des inondations brutales, etc., des épisodes cévenols, etc. Et donc là, je pense que ces projets alimentaires territoriaux, c'est une manière d'adapter les réponses au contexte agricole local, au contexte social aussi, dont je parlais juste avant.
Inversement, alors est-ce que ces initiatives locales, justement, elles pourraient finalement faire émerger de manière plus systématique des nouveaux usages de l'espace ou des nouvelles pratiques ?
Alors oui, c'est un peu l'objectif. Donc c'est quand même l'exemple, ces projets alimentaires territoriaux, de ce que vous parliez de bottom-up. Donc c'est ça, c'est d'abord la structuration à l'échelle d'un territoire de l'ensemble des initiatives qui existent déjà pour aller dans ce sens-là, en pensant que ces initiatives, elles sont dispersées et qu'en les mettant en réseau, on va pouvoir accélérer la transition du territoire vers quelque chose de plus durable, plus soutenable. Ensuite, le fait qu'il y ait ce projet alimentaire territorial, ça va aussi permettre de capter des financements divers pour lancer des nouvelles actions. Donc, c'est pas juste structurer les initiatives existantes, mais c'est aussi donner un cap, une direction et éventuellement impulser donc des nouvelles initiatives. Et après, qu'est-ce que ça va produire ? Il faut un peu de temps pour voir ce que ça produit. Mais ce qu'on constate, c'est que, ce que je constate sur les différents PAT sur lesquels je travaille, que j'accompagne, c'est que rien que mettre autour de la table des acteurs qui ne travaillaient pas ensemble auparavant, je parlais des différents acteurs, des différents stades de la chaîne alimentaire, par exemple, c'est extrêmement utile. Ou dans le cas des enjeux de transmission des exploitations agricoles, mettre autour de la table les différents acteurs de l'accompagnement, qui soient représentants de l'agriculture plutôt conventionnelle et les acteurs plus alternatifs, ça produit des choses très intéressantes. Parce que du coup, on croise les expertises, on croise les regards et on apporte une réponse adaptée au territoire. Donc je suis assez persuadée que oui, ça peut produire des effets.
Alors justement, donc ce PAT, il donne des préconisations concernant notamment la réorientation des aides agricoles vers des modes de production plus durables. Quand on connaît le poids des lobbies en France, la FNSEA, ce genre de choses, est-ce qu'on va dans ce sens-là ? Est-ce que c'est possible ?
Ben, je pense qu'en fait, ces lobbies s'exercent particulièrement à l'échelle nationale et européenne, à des échelles macro auxquelles sont décidées... des gros leviers de financement liés à la politique agricole commune. Et donc là, c'est des aides qui sont majeures, qui déterminent une part importante du revenu sur les exploitations agricoles. Et là, les lobbies se font ressentir de manière très forte. Et que justement, quand on descend à des échelles territoriales fines, je trouve que même s'il y a des représentants de ces lobbies à l'échelle locale, on a aussi en face des personnes qui vont vivre la même réalité sur le même territoire et qui donc vont être plus à même de discuter et d'être ouverte à peut-être dire, bah oui, mon organisation pense ça, mais je comprends bien que sur votre commune, ce dont vous avez besoin, c'est de diversifier les productions agricoles.
On a des rapports agricoles. Moins idéologisés, voilà. Du coup.
Ouais. Exactement. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et plus on est à une échelle fine territoriale, plus c'est facile à faire.
Alors, Lucie l'a dit en introduction, donc vous êtes géographe, et on ne s'attend pas forcément à voir la géographie sur le terrain des enjeux alimentaires. En quoi cette question-là, spécifiquement, elle transforme votre lecture à vous des relations ville-campagne ?
Alors, d'abord, je pense que quand on pense à la géographie, on pense à l'espace derrière et que ces enjeux de relocalisation, reterritorialisation, je l'ai dit au début, il y a un enjeu de réduction de la distance. Donc, on va regarder la proximité entre le producteur, le consommateur et distance physique, mais aussi distance relationnelle. Donc, on va regarder aussi les réseaux de personnes. Donc, ça peut être des questions qui sont explorées en géographie. Et ensuite, moi, je fais de la géographie sociale. Et du coup, je m'intéresse aussi au rapport de pouvoir entre les acteurs à l'échelle locale. Donc, comme je vous ai dit, on arrive à faire discuter les acteurs alternatifs et conventionnels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de pouvoir, par exemple, dans l'accès à la terre.
On peut se demander aussi de quelle manière ces systèmes alimentaires territorialisés ils peuvent influencer les politiques publiques locales. Et vous y répondez notamment avec l'exemple de la restauration collective. Et vous abordez dans l'article la loi Egalim en abordant les cantines scolaires. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi Egalim, pour les cantines ? En deux minutes, on arrive à la fin de l'émission.
Donc c'est un article de Morgan Hainaut qui parle de ça. Et donc la loi Egalim, elle a imposé une part de produits bio et ou locaux dans les cantines. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça incite les cantines à changer leur mode d'approvisionnement et à chercher des produits autour. Mais ce que montre cet article, c'est que c'est pas si simple. C'est que finalement, quand on est gérant d'une cantine ou cuisinier, on est soumis à de nombreuses contraintes en termes de prix, de volume, de temps et de savoir-faire pour la transformation. Et que parfois, acheter des carottes toutes prêtes, prédécoupées, en gros, auprès du grossiste de la ville, c'est plus simple que d'acheter des carottes en botte auprès de l'agriculteur qui est juste à côté.
Un grand merci à vous, Colline Perrin, et revenez quand vous voulez dans Allume la science pour parler éventuellement d'autres publications aussi.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci beaucoup, et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette fois, c'est Lucie qui est partie à Sète pour l'inauguration du CELIMER, le centre de recherche sur le littoral et la mer.
Exactement, et c'est Laurent Dagorne, directeur du centre de recherche en biologie sous-marine Marbec, qui nous a accueillis sur une des plateformes de ce centre, la plateforme de biologging. Le biologging, qu'est-ce que c'est ? C'est le marquage d'animaux, dans notre cas des animaux marins, thon, tortue, sardine, avec des balises permettant d'enregistrer leurs déplacements et bien d'autres choses. Alors des balises, il en existe de toutes tailles, de toutes sortes, et c'est ce que nous présente Laurent Dagorne en présence d'autres chercheurs que vous entendrez également dans le reportage.
Du coup, le biologging, c'est l'instrumentation des animaux marins. Donc, on leur met des marques ou des balises. Je vais vous parler de ces balises-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les suivre et voir où est-ce que ces animaux vont. Mais en même temps, on les utilise parce que c'est un moyen pour nous d'observer l'environnement. Parce qu'en fait, ils observent pour nous. Donc on collecte aussi des informations sur l'environnement à partir de ces animaux. Donc on étudie leur comportement et l'environnement à partir de ça.
Alors en face de nous, il y a quatre types de balises, c'est ça ?
Il en manque surtout un que j'ai dans ma poche. Alors celui-là, il fonctionne avec lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des marques acoustiques. La taille dépend en fait de la batterie, de la puissance. Mais bien entendu, je ne vais pas mettre une marque comme ça dans une sardine.
Donc le petit cylindre de 5 cm, là, il va chez qui ?
Non, alors ça, en fait, on le met. En fait, on fait une opération chirurgicale sur le poisson.
Ok, oui.
C'est-à-dire que si le poisson est petit, on l'endort. S'il est trop gros, comme un thon ou un requin, en fait, alors il y a sur les thons et les petits requins, on les hisse à bord, on ouvre la cavité abdominale, on met la marque dedans et on recoue. Il faut faire ça en moins d'une minute. Eux, ils sont hors de l'eau, c'est pas leur milieu, donc il faut agir assez vite. Et donc on fait ça. Et quand les requins sont trop gros, en fait, on les laisse dans l'eau, à la surface de l'eau, et du coup, on les opère depuis le bateau, donc en étant par-dessus bord.
Sur les zodiacs.
Ouais, donc il faut se mettre sur des bateaux très bas, comme des zodiacs. Et donc, du coup, on le laisse comme ça. Et là, par contre, on a plein de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé parce qu'il est dans son élément. Il est dans l'eau, on est tranquille. Donc là, si on veut prendre une demi-heure, on prend une demi-heure. C'est juste que c'est pas confortable parce qu'on se prend les vagues dans la gueule, ça bouge plus que sur un bateau, etc. Mais par contre, on est tranquille et l'animal est mieux, quoi.
Et vous faites ça sur combien d'animaux ?
Alors, par exemple, là, ce que j'ai cité, là, on a fait 26 espèces dans le golfe du Lion.
600 ?
Ouais, 650 individus. En fait, ici, dans ce laboratoire, on a dû marquer déjà plusieurs milliers d'individus sur tous les océans. Et ça va des toutes petites espèces. En tout, je crois qu'on est à 60-70 espèces différentes qu'on marque. Bien sûr, les toutes petites, on ne peut pas encore parce qu'on dépend de la miniaturisation de ça.
Ça, c'est le plus petit, du coup, qui existe ?
Je crois qu'il y en a, il y a encore plus petit, je crois.
D'accord.
En tout cas, ça, c'est une technologie relativement simple. Ça émet un son, ça émet un code. Il dit « Je suis numéro 3425 ». Il l'émet toutes les minutes, toutes les deux minutes. Et donc, si ça passe à proximité de cet hydrophone, ça, c'est un hydrophone avec des batteries à l'intérieur. On met ça au fond de l'eau.
C'est un cylindre noir d'à peu près 30 cm.
Voilà, c'est la taille d'une bouteille d'eau, en fait. Et du coup, si ça passe, alors, on va dire, ça dépend de la puissance de la marque, mais entre 100 mètres et 1 km, suivant la puissance, eh bien, on sait que ce poisson-là, il était présent aujourd'hui, 2 juin, 13h46, etc. Et tant qu'il va rester autour, on va le savoir. Et puis, quand il va partir, on sait qu'il n'est plus là, mais peut-être qu'il est détecté par une autre, qui est un peu plus loin. Donc, entre-temps, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais donc, en mettant des réseaux, on a une idée de où est-ce qu'ils vont. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur tout le littoral du golfe du Lion.
Et des grosses balises comme ça qui servent de relais, vous en avez combien
de temps ? Là, ici, on a plus de 200.
Et ça permet de les suivre combien de temps ?
Alors, il y a des marques qui peuvent durer 5 ans. Alors, encore, mais suivant la puissance.
Question, si elles sont pêchées, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, très bonne question. Si elles sont pêchées, alors, normalement, on a une petite indication ici, mais sinon, on met une petite marque spaghetti, c'est-à-dire une marque en plastique, ce qui fait qu'il y a notre adresse et donc le pêcheur nous contacte. Ce qui fait qu'il peut récupérer. Nous, on peut récupérer la marque pour la réutiliser. Et puis, eux, ils peuvent avoir une petite.
Ils le font ?
Oui. Donc, ça, c'est les marques acoustiques. D'accord. Et après, il y a des marques, on va dire, qui enregistrent, comme ces marques-là. Ça veut dire qu'elle n'enregistre rien, elle ne fait que émettre. Mais il faut qu'elle soit détectée par ça. Et ça, ici, c'est des marques archives. Donc, on les met pareil en chirurgie. Alors, c'est pas grave parce que ça sort du ventre, par contre.
Ah, okay. D'accord. Donc, ouais, je décris encore. C'est un cylindre transparent du ventre. Et effectivement, c'est une voilà. C'est une sonde. On dirait une sonde. Enfin,
voilà. En fait, c'est un capteur de lumière et de température qui sort.
Ah, c'est pour faire du proxy physique, quoi.
Ouais, mais en fait, c'est pourquoi ? C'est parce que...
Et pour la position.
Le GPS ne marche pas sous l'eau. Donc, comment est-ce qu'on connaît la position de quelque chose qui est sous l'eau ? Et en fait, on utilise ce que les navigateurs faisaient au Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de calculer la durée du jour, parce qu'avec la durée du jour, on saura...
Et la date.
Et la date, on saura sur quelle... Alors que je ne me trompe pas, sur quelle longitude on se trouve. Et avec l'heure de midi, on va pouvoir savoir quelle est la latitude, puisqu'on fait le décalage avec Greenwich. Et donc, en fait, ce capteur de lumière nous donne le lever du soleil, le coucher du soleil. Donc, avec ça, on a la durée du jour. Et puis, on a midi. Donc avec ces deux informations-là, on recalcule les algorithmes, on calcule la position. Alors c'est pas une position à 100 mètres près, c'est une position qui va quand même être un peu incertaine. Donc on utilise ça en général pour les migrations transocéaniques. Okay. Si on veut savoir, si par exemple on marque un ton rouge ici, si jamais on va le récupérer en Floride, là ça va être efficace. Parce que là on va avoir tout le trajet. Et par contre, si on marque un poisson comme ça dans l'étang de taux pour voir s'il est allé de l'est de l'étang de taux à l'ouest, c'est idiot, c'est pas adapté.
Et lui, vous allez voir, lui, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, c'est en fait Argos. Donc okay, on le met sur une nageoire, donc c'est uniquement pour les animaux qui, à un moment donné, vont percer la surface. Donc ça veut dire quoi ? En général, ça peut être des tortues, ça peut être des requins lorsqu'ils ont la nageoire qui passe au-dessus de la surface, ou ça peut être des mammifères marins.
Comment tu fais ça sur une tortue ?
Alors, ça ne va pas être avec ce système-là, ça va être collé, en fait. Ça ne va pas être avec des vis. Et donc, le coût de tout ça, les marques comme ça, c'est entre 300 et 600 euros, pièce.
Donc là, on est sur les petites.
Les petites.
Ouais.
Le récepteur, c'est 1500 euros. Donc, quand il vous en faut 200, c'est un certain chiffre.
En fait, c'est le volume qui fait le...
Ça, à la louche, c'est 1000 euros. Et ça, c'est 4000 euros.
Ok, celui qui ressemble à une grenade, c'est 4000. Et ceux-là, vous ne les récupérez pas forcément.
Non, de toute façon, on considère que tout, c'est perdu. Hein.
Qui fait ça ? C'est des entreprises françaises, alors, européennes ?
Non, alors pour l'instant, c'est des entreprises américaines et canadiennes qui sont leaders sur le marché. Il y en a très peu.
C'est vraiment une très haute technologie.
Et ça évolue vite, la technologie ?
Très vite.
Ouais. Avec les drones, il n'y a pas moyen aussi, à partir des bateaux...
Alors, si. Il y a des moyens, notamment pour essayer de suivre en direct ce genre de marque.
Alors, pour les applications, donc, on peut suivre l'immigration, on peut s'intéresser à l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres applications ? La pêche, par exemple ?
Non, pas du tout. Les applications, c'est vraiment d'abord l'écologie et voir où est-ce qu'ils vont. En gros, on ne peut pas faire d'aires marines protégées si on ne sait pas où vont les animaux. Donc, c'est déjà le béaba, on va dire, pour faire des gestions spatiales. Et après, du coup, ça peut être utilisé pour la gestion des pêches, justement, quand on sait où est-ce qu'ils vont. Par exemple, quand on marque des requins, si on sait qu'il y a des endroits où ils vont plus particulièrement, pour essayer d'éviter ces zones, c'est ce qu'on essaye de faire.
Et j'accueille maintenant notre invitée des trois dernières minutes. Et cette semaine, c'est Agnès Lèbre, astronome et directrice adjointe de l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement, l'OREM. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et bienvenue dans Alim la science. Donc aujourd'hui, vous allez nous présenter une conférence qui aura lieu le 26 juin à 14h sur le campus Triolet. Et cette conférence traitera donc de la question des impacts environnementaux du numérique. Alors pourquoi ce thème ?
Eh bien parce qu'il nous paraît urgent d'agir pour que notre planète reste habitable. Et le numérique peut être souvent perçu comme une solution ou la solution. En partie, c'est peut-être vrai, mais le numérique contribue aussi à la dégradation de l'environnement. Il modifie aussi fortement le fonctionnement de nos sociétés, du monde du travail par exemple. Et donc, à travers ce thème, on propose de prendre du recul, d'identifier ensemble les impacts environnementaux et sociétaux du numérique pour pouvoir prendre conscience de différents freins que l'on rencontre et surtout éviter de prendre des mesures qui pourraient s'avérer en fait contre-productives.
Alors cette conférence, donc c'est une conférence grand public, elle est donnée par Didier Malarino. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui ?
Bien sûr. Donc Didier Malarino est un ingénieur de recherche et informaticien à Toulon. Il est rattaché au CNRS et c'est un spécialiste du numérique. Donc il alerte justement sur ce double rôle du numérique, perçu comme solution, mais souvent également un peu nuisible.
À prendre avec des pincettes. Alors, on est très content aujourd'hui. C'est la première fois qu'on reçoit l'OREM. Donc, j'ai dit que c'était l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait à l'OREM ?
Tout à fait. Donc, en fait, cet observatoire, c'est une communauté de 1200 personnels scientifiques du CNRS, de l'Université de Montpellier, de l'IRD, de l'INRAE, à travers 8 laboratoires de recherche. Et les travaux de cet ensemble, cette communauté, sont dédiés à l'écologie, l'environnement, la biodiversité, ainsi qu'aux sciences de la Terre et même aux sciences de l'univers à travers l'astrophysique. Donc les travaux de recherche de l'OREM, c'est vraiment, ils sont centrés sur l'observation, parfois sur des durées longues, du changement climatique et de ses impacts sur différents écosystèmes. Impacts qui d'ailleurs, on le sait, sont souvent liés aux activités humaines. Essentiellement. Et donc, tout dans le but de mieux comprendre l'évolution de ces écosystèmes et plus généralement les effets du changement climatique sur l'environnement et même sur notre planète Terre.
Super. Et donc, vous vous situez, je crois, sur le campus de pharmacie, vous êtes, c'est ça ?
Oui. Donc, les locaux de l'OSU OREM, de l'Observatoire OREM, sont sur le campus de pharmacie avec également la station marine qui est localisée à Sète pour les écosystèmes qui sont plus marins. Voilà. Et on peut retrouver toutes les informations de notre observatoire sur son site web www.orem.org.
Super, merci beaucoup. Alors pour rappeler, donc cette conférence, elle se tiendra le 26 juin à 14h sur le campus Triolet, amphithéâtre du bâtiment 20. Et c'est ouvert à tous, sans inscription. Vous confirmez Agnès ?
Parfait, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.
Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.